14h-15h le samedi, kiosque Cynthia Isarelli.
Bonjour, vous tombez bien, aujourd'hui on se met à table en famille et on va tenter d'aller jusqu'au dessert sans faire voler les assiettes ni se mettre des tartes. Quand un écrivain en perte d'inspiration invente l'histoire d'un petit bigorneau orphelin à la recherche de sa coquille, eh bien n'imagine pas que ce conte va provoquer un véritable cataclysme domestique. Métaphore marine, règlement de compte, quiproquo en cascade, l'effet miroir transforme le dîner familial en tsunami. C'est à voir en ce moment au Théâtre Le Public et on en parle avec Stéphanie Van Veyve et Fabio Zenoni, nos invités. Autre table, autre famille. Mais cette fois, on fouille les tiroirs de la mémoire. Des secrets, des silences, des versions contradictoires d'un passé transmis au compte-gouttes. Comme un poisson sans bicyclette de Virginie Thirion remonte 4 générations de femmes et interroge la manière dont on hérite, malgré soi, d'une histoire. C'est à voir ou à revoir au Théâtre des Martyrs en ce moment. Virginie Thirion et Caroline Berliner seront également avec nous. Lui, on voudrait qu'il nous adopte ou bien l'adopter, ça dépend des semaines. Bon. C'est Cédric Wautier qui est au bar du kiosque. Bonjour.
Au bar, j'aime bien cette
idée. Au bar, au comptoir, ouais. J'écris au bar cette semaine.
Je buvais vos paroles. Quel est pour vous le lien entre Médée, Pénélope et Niki de Saint-Phal?
Mes cours de latin.
C'est un bon début.
C'est un bon début.
Ouais, elles sont toutes au centre d'un spectacle qui s'appelle Les Héroïdes, dont je parlerai.
Eh bien voilà, ce sera tout à l'heure dans votre chronique de la semaine. On dit merci à Perrine Lucas et Simon de Beuchère qui préparent et réalisent cette émission. On vous dit merci à vous d'être là. C'est Kiosque, on est ensemble pour une heure, on va parler art vivant et on est en famille. Mais promis, ça va bien se passer.
Kiosque sur la première.
Un écrivain à succès, un conte pour enfants, un bigorneau orphelin et soudain c'est toute une famille entière qui se reconnaît ou croit se reconnaître dans cet escadron d'oursins, de poulpes, de sèches et de crevettes. Quand la fiction agit comme révélateur, un dîner de famille tourne à la déflagration affective. Dans l'effet miroir, l'imaginaire devient explosif, c'est drôle, c'est absurde, c'est sensible et ça pique aussi un petit peu. On en parle avec une partie du cast. Bonjour Stéphanie Van Veyve, bonjour Fabio Zenoni.
Bonjour. Bonjour.
Et bienvenue dans Kiosque. Alors vous êtes tous les deux au casting sur scène dans cet effet miroir, mis en scène par Isabelle Paternotte. À côté de vous, sur scène, il y a Anna Rodriguez et Alexandre Trocchi qui jouent respectivement eh bien, votre frère et votre belle-sœur, vu que vous jouez un couple, Théophile et Irène. Il est écrivain, il a eu un énorme succès avec son premier roman et depuis, c'est la panne sèche. Elle est contrôleur de gestion, c'est un peu le pilier de la famille et elle est au bord de la crise de nerfs et tout va imploser à la suite de cette nouvelle lubie qu'a eu son mari d'écrire un petit conte philosophique pour enfants. Dans quelques mots, c'est un petit peu le pitch, mais qu'est-ce qui vous a séduit, vous deux, en premier dans ce texte? Est-ce que c'est la mécanique comique, parce qu'on va en parler, il y a vraiment une mécanique de précision, ou est-ce que c'est la cruauté, finalement, de ce texte?
Pour moi, c'est la mécanique, bien sûr, dans un premier temps, qui est redoutable. Et ensuite, je trouve que Confino, elle a cette capacité à faire rire avec la cruauté humaine. Elle a ça déjà dans sa pièce que j'avais jouée qui s'appelle Ring, où il y a des scènes de couple qui sont assez cruelles, mais qui sont assez vraies aussi. Et c'est vrai que ça fait son panache, c'est sa qualité première.
Moi, ce qui m'a plu aussi, c'est cet effet de libération sur chacun des personnages qui est généré par la lecture de ce petit conte ou la découverte de ce petit conte, mais aussi par l'imbrication de l'énergie de l'un dans l'autre. Il y a vraiment cet aspect de pièce à tiroir, on va de surprise en surprise et c'est des surprises de plus en plus grandes. Et ça, c'est quand même assez bien pensé parce que chaque fois, on se dit non, là, on est au bout de nos surprises. Et puis, il y en a encore une plus grosse qui arrive. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup plu, séduite. Et puis, effectivement, l'écriture comique qui est irrésistible chez elle.
Et c'est vrai que les spectateurs, en sortant de scène, nous disent souvent qu'ils ne s'attendaient pas à ça par rapport à la fin de la pièce.
Ouais.
Ils ne s'attendaient pas à être bousculés à ce point-là et que ça rebondisse à ce point-là et que ça aille aussi dans un côté un peu absurde aussi.
Alors c'est vrai qu'on l'a dit, hein, Léonore Confino, cette pièce, je pense, elle date de 2023. Elle travaille souvent sur la cellule familiale. On a cité Ring, on pourrait aussi parler de la pièce Les Beaux. Qu'est-ce qui distingue ici cette famille, peut-être des familles précédentes qu'on a pu découvrir chez Léonore Confino ou peut-être d'autres familles dysfonctionnelles en général que vous avez pu croiser dans d'autres pièces, dans d'autres spectacles?
Par rapport à son œuvre, moi je vais laisser Fabio parler, puisqu'il a déjà interprété deux personnages, enfin de deux pièces différentes.
Oui, ce qui différencie, c'est que c'est vrai que Les Beaux et Ring, elle est axée vraiment sur le couple. Alors là, il y a deux couples, effectivement, donc ce qui permet d'écrire sur plus de thématiques différentes, effectivement. Mais ce que je trouve assez, ce qui est beau dans cette pièce, c'est qu'elle s'est inspirée de sa vie. Elle, en tant qu'autrice, où elle a vécu ce genre de situation, où des membres de sa famille et aussi des amis se sont des fois identifiés à certaines scènes et certains personnages. Et elle en a fait cette pièce comique. Et je trouve que aussi, oui, elle... Moi, pour moi, c'est sa première pièce où vraiment les rôles féminins sont égalitaires avec les rôles masculins. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont tous les quatre une puissance de frappe, on va dire, dans la comédie qui est assez importante. Et c'est ce qui rend cette pièce très équilibrée dans ce qu'on recherche aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on dit sur l'engagement de plus de femmes au théâtre et donc de plus de rôles.
Mmh. Et ces rôles, ils permettent de sortir un peu des clichés ou pas spécialement?
Ça dépend comment on les interprète. Mmh. Alors, parce qu'en fait, ce sont des thématiques qui pourraient totalement être utilisées dans un drame. Hein, on parle d'adultère, on parle de problèmes de fertilité, on parle... je ne vais pas tout dévoiler parce que ce serait dommage d'ouvrir tous les tiroirs. Mais si on le traite sur un mode... ça reste sincère, hein, la comédie est toujours toujours d'un endroit sincère, mais si on le traite sur un mode hyper réaliste, alors on est dans un drame total. Oui. C'est un souper de famille qui se délite. Mais ici, le gros avantage de la comédie, c'est qu'on se prend la réalité en face, sans y avoir pensé au préalable. Les émotions surgissent et l'intention n'est pas de nuire ni à soi ni à l'autre, mais de juste laisser éclater une vérité. Et cette vérité, moi je trouve qu'elle est bonne à dire et donc... C'est à nous d'incarner cette vérité-là, ce besoin de le dire.
Alors c'est vrai que les personnages, on pourrait finalement, c'est ça qui est assez malin dans cette pièce, on pourrait partir dans n'importe quelle direction. On a tous les atours de la réussite, on a ce couple qui a l'air relativement aisé en surface en tout cas, parce qu'on va vite voir qu'il y a des problèmes financiers, qui est parent de deux petites jumelles, on sent la jolie maison, on a un frère aîné et une belle-sœur qui travaillent, qui sont actives dans la vie, qui ont des métiers aussi plus particuliers, notamment la belle-sœur est thanatopracticienne, si je le prononce bien. Effectivement. Donc, on pourrait effectivement avoir une fable sur la comédie sociale et comment on gère ses problèmes financiers par rapport au monde. On croit que ça peut commencer là-dessus. Puis très vite, on arrive sur ce dîner de famille. Et le détonateur, ça va être ce conte pour enfants dont on va jamais avoir la version complète. On va en entendre des bribes, qui donc cette petite histoire d'un petit bigorneau qui part dans l'océan chercher un petit peu à la quête de son identité. En quoi, finalement, le détour par l'enfance, par un texte très naïf, ça agit comme un révélateur? Et en quoi s'inspirer de son réel, parce que finalement c'est de ça que ça parle, s'inspirer de son réel en tant qu'artiste, c'est forcément risquer de heurter quelqu'un?
Oui.
Très bonne question.
C'est-à-dire que oui, si moi par exemple en ce moment j'ai écrit un seul en scène sur ma mère, forcément ça la heurte et ça peut heurter des gens de la famille. Même si je fictionne quand même, je pars d'une réalité, je la fictionne. Donc oui, ça, il peut y avoir, surtout pour les auteurs, ce risque-là, bien sûr.
Quant à moi ici, moi je suis pas dans l'écriture, mais c'est vrai que je m'inspire de mon vivant, de mon vécu, des personnes qui m'ont été proches, probablement un peu de ma maman et de ma vision de la famille. En fait, ce qui sous-tend, parce que vous parliez de cruauté au début, je pense qu'il y a un réel besoin d'amour dans cette pièce. On n'était pas tout à fait d'accord quand on l'a montré au directeur et à la directrice, mais moi c'est vraiment ça qui me mobilise, c'est le besoin de retrouver le désir pour mon mari et qu'il me désire aussi. Et en fait, cette force-là est tellement puissante qu'on va être obligé de libérer les barrières, en l'occurrence, malgré nous. Parce qu'il y a vraiment quelque chose, ce détonateur, il est tellement vif qu'on ne l'a pas prévu. Mais s'il n'y a pas cette sous-tension de l'amour, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à raconter cette histoire.
Le fait que ça explose, c'est aussi dû au fait que, dès le départ, en fait, toute cette famille est déjà largement sous tension. Tout le monde s'aime, tout le monde s'entend bien. Mais il y a quand même, un fil très, très tendu sur lequel tout le monde marche. On a Théophile qui est dans une forme de dépression ou de burn-out, on ne sait pas. En tout cas, ça fait 5 ans qu'il, d'après son entourage, vit en pyjama et ne produit plus rien. Donc, il a cette pression sur les épaules. Il y a Irène qui essaye de tenir. Il y a le frère qui essaye de pousser et qui, en même temps, on le sent, se sent un peu frustré d'être toujours un peu vu comme celui qui a moins bien réussi. Il y a cette belle-sœur dont on ne comprend pas trop, finalement, le positionnement parce qu'elle ne dévoile pas tout à fait son jeu. Votre personnage, Fabio Théophile, Comment il se positionne finalement? Est-ce qu'il est dans le déni? Est-ce qu'il est véritablement dans la déprime? Est-ce qu'il essaie de s'en sortir? Ou est-ce qu'au contraire, en fait, lui, finalement, ça va? Il est sur son chemin de création et c'est les autres autour qui s'agitent?
Oui, c'est pour les autres. Moi, je suis parti plutôt pour la deuxième version. Mmh. Donc, c'est-à-dire que je pense que malgré lui, peut-être que ces petits animaux de marin, il s'est inconsciemment inspiré de ce qui l'entoure. Peut-être, c'est possible. Et peut-être qu'il va s'en rendre compte au fur et à mesure que les personnages vont s'identifier à l'oursin, à la sèche et tout ça. Mais je pense que c'est aussi, non, où il a peut-être cette dépression et aussi quelque chose comme souvent certaines dépressions, c'est des remises en question. C'est aussi pour passer à des étapes suivantes parce qu'on se rend compte que les livres qu'il a écrits avant, c'est des gros succès sur des histoires d'amour un peu à l'eau de rose et qu'il a décidé de faire ce petit conte. Donc, non, je pense pas qu'il est dans le déni, mais je pense qu'effectivement, c'est difficile de... On a tous vécu ça comme artiste. Il y a des choix, des fois, qu'on fait dans la vie qui sont pas évidents à dire aux autres. Si on cartonne au cinéma ou à la télé, qu'à un moment donné, on dit à son entourage, ça y est, j'ai envie de revenir à mes premières aventures, qui est de faire de la comédie dell'art, de partir sur les routes avec un cheval et un tréteau et des copains à 50 ans. Ben, bah, oui, forcément, il y a des gens qui vont dire, mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu délires. Donc, forcément,
ça pose
question, ça pose problème à l'entourage et en même temps, ce qui est chouette, c'est que c'est compréhensible aussi. Parce que quand on a des enfants, quand on a un train de vie, on entraîne les autres avec nous dans cette nouvelle, dans ce choix nouveau. Et là, il l'a pas dit. Donc, c'est vrai que dans la pièce, il dévoile ça. C'est pas qu'il dit à sa femme, il y a 3 ans, écoute, je vais changer de style, je vais écrire autre chose.
Ouais.
Et donc, ce qui est très fort chez Léonore, c'est que pour revenir à une chose que vous aviez dite, c'est que le conte pour enfants, on est dans quelque chose de très naïf, de très premier degré.
Oui.
Donc, il n'y a pas cet aspect comme un roman intellectuel pourrait. Là, on est tout de suite sur l'oursin qui ne peut pas avoir d'enfant. Donc, forcément, c'est le personnage qui lit ça, qui ne peut pas avoir d'enfant, il se dit, mais comment il a pu être aussi premier degré avec ça? Et c'est,
oui,
ça qui est, c'est ça qui est fort et qui est drôle. Et alors, et juste aussi par rapport au détonateur,
mm-hmm,
je trouve que dans, il y a la pièce, le rôle de la belle-sœur,
oui,
est vraiment un détonateur incroyable. Là, je trouve que Léonore a fait un tour de force avec ce personnage,
oui,
parce que elle fait des blagues, mais en étant sur une forme de vérité. Et on est tous tentés, des fois, dans la vie, dans un repas, de dire, de devoir subir les discours, l'image de ce que c'est une belle famille et tout ça. Et des fois, on a vraiment envie de dire, mais vous croyez plus intéressante que moi parce que vous êtes derrière le micro et que vous faites cette émission. Vous croyez vraiment intéressante.
Sauf que souvent, ça se passe pas bien.
Oui.
On balance la vérité.
Ah
ouais. Ici,
oui,
ça, c'est beaucoup plus intelligent aussi.
Bah oui, parce qu'elle en fait des blagues. Mm. Mais ça bouscule quand même ces trois personnages à tous des moments de la pièce. Et voilà. Et je trouve qu'elle fait partie du conte. Il y a le conte qui est détonateur et il y a elle qui est détonateur aussi.
Ouais.
Et dans la structure, c'est vachement bien fait. C'est comme dans pas mal de pièces de Molière. C'est un personnage, le personnage d'Irène, donc de la belle-sœur, qui est assez étrange, arrive assez tard. On la voit pas au début. Et donc, il y a vraiment cette construction, comme tu dis, en élément déclencheur. Et l'autre chose dont ça parle aussi, ce conte, enfin le conte ou en tout cas la structure de la pièce, c'est les étiquettes qu'on porte malgré nous ou que les autres. Tout de suite, il me dit, mais pourquoi tu parles pas de toi? Ça ne les intéresse pas, les contrôles de gestion dans ta famille. Et donc quoi? Moi, je suis ta femme qui je suis uniquement la contrôleuse de gestion. Et en fait, chacun, on va prétexter ou malgré nous prétexter ce conte, la lecture de ce conte qui s'appelle quand même l'éveil du plancton pour éveiller notre nature profonde, de dire, mais tu ne te rends pas compte que je suis beaucoup plus que ça. Et je trouve que ça, là, ça pose une question de quand on vit en couple ou en famille, oser dire, mais vous savez, je me sens pas comme ce que j'ai construit ou que vous avez fait en sorte que je construis. C'est très dur de dire tout à coup à la personne qu'on aime, en fait, je me suis trompée sur moi-même. Est-ce que t'es OK de continuer avec moi, avec quelqu'un qui est peut-être un peu différent? Faut avoir d'abord une grande confiance en soi, cette forme d'éveil, et puis la confiance en l'autre pour dire, est-ce qu'on continue avec ce changement-là?
Oui, il faut dire aussi que, et c'est ça qui est brillant, c'est que chaque famille finalement est un système. Et là, on le voit très bien parce que chaque personnage ne se définit finalement que par rapport aux autres.
Ouais.
On est le frère de, la belle-sœur de, on est celui qui a réussi, on est celui qui assure la pérennité du foyer, celle qui sait avoir des enfants, celle qui ne sait pas. Et tout ça va bouger. Est-ce que dans cette famille où tout le monde parle beaucoup, personne ne parvient à s'écouter? Est-ce qu'il faut forcément en arriver à la rupture, à la dispute, pour qu'à un moment le message passe et qu'on parvienne à se voir? Est-ce qu'il faut forcément faire sauter le système familial pour réussir à ce que chacun se repositionne?
Moi, j'ai tendance à dire que oui. Mais bon, j'imagine qu'il y a d'autres familles qui s'en sortent différemment. Mm-hmm. Là, dans la pièce, c'est voulu que ça explose parce que ça fait partie des ressorts comiques de comédie, en fait. Hein. C'est, on lance un scud, on le prend dans la face, ça rebondit. L'autre hallucine parce qu'il y a une vérité nouvelle qui se dit. Voilà, c'est les engueulades. Malheureusement, ça fait partie aussi des fois des possibilités de dénouer des choses voilà, dans les familles, dans le couple, tout ça. Donc...
Mais de nouveau, comme c'est une comédie, ici, je pense qu'on garde un aspect de légèreté qui est assez salvateur quand même dans la situation. Et puis, il y a un élément qu'elle a mis d'emblée, c'est le positionnement d'un miroir physique. Hein, oui. Donc, il est pas sur scène, mais Théophile est allé s'acheter, malgré nos finances qui sont dans le rouge, il est allé s'acheter un miroir. Et ce miroir est un révélateur, une sorte de miroir magique. Mais en fait, il n'est pas nécessaire à la situation, mais il est de nouveau un peu un prétexte comme ce conte pour aller plus vite dans l'ouverture de chacun de ces personnages et pour aller plus vite aussi vers une sorte de résolution. En tout cas, elle le met au début, elle le met à la fin pour une traversée de ce miroir. Et j'ai entendu plusieurs personnes qui disent « Mais c'est vrai que cette pièce agit aussi sur le spectateur, la spectatrice, comme un miroir. Tiens, et nous alors ? Parce qu'eux ont l'air quand même un petit peu tapés. Mais dans nos vies, comment est-ce qu'on s'en sortirait face à l'annonce de tel ou tel élément un peu dramatique pour continuer malgré tout ?»
Mm-hmm. Alors, c'est vrai que le spectacle aussi entre de la comédie feel good, des règlements de compte et des moments très très ténus où il se passe des choses très émouvantes, où il y a un petit silence, il y a un petit mot qui est lâché, vraiment pas grand chose, et ça repositionne vraiment tous les personnages. Après, il y a des moments où on sent que vous avez beaucoup de plaisir à pousser les taquets à fond. Il y a des scènes d'empoignade assez burlesques. Je pense que quand j'étais dans la salle, le soir où j'étais dans la salle, j'ai vu une cuillère en bois se fendre en deux.
Ah oui.
au moment de la bagarre. Comment vous vous amusez là-dedans et comment vous fluctuez justement ce ton entre les moments très burlesques, très fantaisistes et les moments où il faut retomber dans une nuance très très juste?
C'est le plaisir de l'acteur de faire ça. C'est quand même assez jouissif pour nous de passer d'une scène très drôle, très burlesque, très absurde à un moment tendre. Mmh. J'en ai quelques-uns avec mon frère dans la pièce et c'est vrai que c'est pas que c'est un tour de force, mais c'est très agréable d'emmener le spectateur dans oui, on rit, mais là, on va essayer de vous amener un petit peu de tendresse, et c'est pas évident parce que c'est vraiment des petits moments à l'intérieur, comme vous dites, où il faut placer ces petits moments d'émotion, comme j'en ai un tout petit peu avec ma femme et comme aussi mon frère en a avec sa femme à lui. Et donc, c'est plutôt jouissif de faire ça. Voilà, parce qu'il y a des pièces comiques qui ne le permettent pas.
J'allais
forcément.
Il n'y a pas tant de pièces étiquetées comiques qui permettent justement ces incursions dans le plus sensible.
Tout à fait.
Mais c'est quoi alors justement, puisque vous en parliez tout à l'heure, cette fameuse mécanique du rire dans le cadre de ce spectacle-là ? Parce que dès qu'on parle de comédie, les comédiens qui viennent à ce micro disent « Oui, yeah, c'est la mécanique du rire, la mécanique du rire ». C'est quoi la mécanique du rire ?
Ah, attention, parce que moi j'allais quand même répondre encore à la question précédente. Moi, je me souviens d'une leçon qui m'avait été donnée par une professeure au conservatoire, Patricia Ouyou, qui disait que la grosse différence entre la tragédie et la comédie, c'est comment on se prend le râteau. On voit le râteau est là. On doit marcher sur le râteau. Dans la tragédie, on réfléchit très fort parce qu'on sait qu'on va se faire mal. On n'a pas le choix. Il va falloir marcher sur ce râteau. Donc, tout est intériorisé et on réfléchit. Évidemment, ça monte, ça fait très mal avant même de marcher sur le râteau. Puis on marche sur le râteau, on le prend très courageusement. Bah, et on continue. Tandis que la comédie, on n'a même pas vu le râteau. Boum, on se le prend et on avance quand même. Et c'est, moi, je trouve qu'il y a ce côté non réflexif au moment de vivre l'instant. Et je le disais tout à l'heure, en tout cas, ça, c'est un autre metteur en scène qui m'avait dit, il me voyait travailler une comédie, il m'a dit, mais tu sais, ça fait pas mal la comédie. C'est la même chose, mais à l'intérieur, ça fait pas mal parce que mon intention n'est pas de faire mal à l'autre, ni de me faire mal à moi, c'est juste de vivre l'instant. Et en fait, il y a ce côté très libérateur. Donc il y a non seulement le fait de jouer dans le rythme du texte, le texte, il contient déjà tout, de charger ce texte-là et de que l'intention soit pure dans le fait de construire l'un avec l'autre une situation très premier degré. Et Et dans la tragédie, on va beaucoup plus investir cette réflexion, le savoir. On est en général un peu plus intelligent. C'est pas pour réduire les personnages comiques à des personnes naïves, mais il y a quand même une forme d'y aller sans trop penser. Et je trouve que le texte, en fait, le texte a une musicalité, comme la plupart des auteurs ou des autrices qui travaillent la comédie. Si on est à l'écoute du texte, il y a déjà une forme comique dans ce rythme. Et puis après, c'est une construction entre nous. Franchement, on voit bien les fois où on s'accompagne, quand l'un ou l'autre dit « tiens, attends une milliseconde de plus ». Parce que la mécanique du rire, elle se fait aussi avec la participation du public, de savoir « tiens, quand je te donne ceci, comment est-ce que tu le prends et comment moi je vais le récupérer ?» Donc c'est vraiment, quand on dit mécanique, c'est un engrenage et qui est complexe, mais qui n'est pas trop dans les tripes. Il est plutôt physique, c'est une dynamique aussi, mais elle n'est pas trop réflexive.
On passe 1h20, c'était brillamment expliqué. On passe 1h20 donc à toute allure avec vous quatre dans ce spectacle. On passe par énormément d'émotions, on rit énormément. Il y a des moments tendus, il y a des moments très très émouvants. Comment vous vous sentez vous l'avez déjà joué quelques soirs cette pièce. Comment vous vous sentez vous quand vous quittez le plateau à la fin de cette pièce. Qu'est-ce qui vous reste à l'intérieur?
Ben, il y a deux choses. Moi, personnellement, je suis assez fatigué après la pièce. Parce que l'air de rien, en fait, c'est des pièces où nous aussi, on subit tous ces chocs, en fait, en permanence. On pense qu'on va à un repas, puis on se prend la belle-sœur qui nous dit ça, puis le frère qui s'identifie à un des animaux, qui dit qu'il est vexé, et puis la femme qui n'aime pas le conte. Et puis, en fait, ce n'est que rebondissement. Donc, en fait, quand on rentre sur scène, on a un petit peu les deux premières scènes qui sont des scènes d'introduction, on va dire, entre guillemets, et après, ça part. Ouais. Et il y a le dîner qui commence, et là, ça part, donc on va dire qu'il y a un quart d'heure d'introduction, et après, ce n'est qu'une montée en flèche jusqu'à la fin. Donc voilà, on est l'air de rien. Il y a des pièces qui fatiguent plus que d'autres. C'est pas une question de timing, d'être sur scène 1 heure, 2 heures, 1h45, peu importe. Il y a des scènes qui sont plus fatigantes que d'autres. Et c'est là, faut quand même maintenir parce que toutes les trois phrases, il y a un élément important qui s'annonce à un autre. On encaisse chacun l'un l'autre tout le temps quelque chose. C'est ce qui fait la qualité de la pièce aussi, évidemment. Non, et puis après, je sais que c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais faire rire des gens tous les soirs, au public, on a la chance de jouer un mois et demi, avec une équipe comme celle-là, en tant que comédien, c'est beaucoup de bonheur, et puis on sent que les gens, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ont besoin évidemment de voir des drames aussi, mais sont très contents de rire sur des choses qui les ramènent un peu à leur quotidien et pas à tout ce qui se passe dans le monde. Donc c'est vrai qu'on a quand même une petite mission là-dedans, ça fait du bien.
C'est clair que ça fait du bien. Et d'ailleurs, on vous en remercie. L'effet miroir de Léonore Confino sur une mise en scène d'Isabelle Paternotte avec sur scène Anna Rodriguez, Stéphanie Van Veyve, Alexandre Troquier et Fabio Zenoni. C'est donc à voir jusqu'au 28 février prochain. On y sort de sa coquille, on se met pas mal sur la gueule, mais à la fin, on s'aime. Et ça, je confirme, ça fait beaucoup de bien. Merci à tous les deux. Merci.
Merci.
Kiosque sur la première.
Cette semaine, la chronique est signée Cédric Wautier. On va faire le plein d'héroïne, au pluriel.
Oui, et d'héroïne 2, puisque héroïne 2, c'est le titre d'un spectacle à découvrir pour l'instant. C'est aussi le titre d'un recueil de lettres fictives qui avait été écrite par Ovide il y a de cela un peu plus de 2000 ans, quand même.
Pas si loin non plus.
Et en fait, il va se mettre dans la tête de toute une série d'héroïnes de la mythologie en se posant la question, tiens, qu'est-ce que ces héroïnes auraient pu dire à leurs maris, aux hommes qui les ont trahis ou abandonnés. Ça, c'est le point de départ. Et en fait, la compagnie Brutaflore a décidé de se plonger dans ces histoires et de les réinterpréter, de se dire, tiens, en quoi est-ce que ça me parle? En quoi est-ce que l'histoire ou cette lettre fictive de Pénélope, d'Ariane ou de Didon par exemple, me parle moi en tant que comédienne, en tant que femme aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui. Elles sont 6 femmes sur scène, complètement déjantées, elles chantent, elles jouent, et elles nous amènent à une réflexion évidemment autour de ces femmes qui ont existé dans la mythologie mais qu'on n'a pas vu beaucoup, dont on n'a pas entendu finalement la réflexion par rapport à ce qu'elles vivaient ou l'émotion par rapport à ce qu'elles vivaient. Je vous propose d'entendre Flavia Lorenzi, la metteuse en scène de ce spectacle.
Je cherche justement cette écriture au féminin, donc de prendre ces mythes féminins et de voir qu'est-ce qui ça fait si c'est avec le regard de femme qui raconte ces histoires-là. Et donc c'est une sorte de donner une nouvelle version, puisqu'il s'agit de toujours la mythologie, plusieurs versions. Et donc quelle serait la version, la nôtre, pour raconter ces histoires, pas négligeant d'où elles viennent, mais en confrontant avec notre temps aujourd'hui et notre rôle de femme dans cette société-là.
Donc il y a une vraie réflexion, il y a une vraie volonté aussi hein, de proposer un spectacle de femmes qui va s'adresser évidemment à tous et qui va amener une réflexion, on l'espère en tout cas, dans la salle par rapport à ce combat, à cette lutte encore d'aujourd'hui. Il y a des choses très surprenantes, comme par exemple, à un moment, on entend des conseils pour être une bonne femme. Mmh. Vous voyez, ça, la bonne mère, la bonne femme, la bonne épouse, etc. Et on a l'impression, à ce moment-là, d'entendre un manuel des années 50 de la bonne épouse. On a l'impression aussi de lire certains Instagrammeurs ou certaines Instagrammeuses aujourd'hui, qui, aux États-Unis entre autres, mais ça arrive en Belgique ou en Europe, eh bien, ramènent la femme à cette condition de bonne épouse, etc. Et on se rend compte que ça a été écrit il y a plus de 2000 ans. Donc c'est quand même très très étonnant. C'est aussi assez étonnant à un moment d'avoir ce côté un peu émotion ressentie de ces femmes qui est enfin livrée sur scène.
On aime tout jouer la tragédie, on est habitué, c'est ces rôles-là, c'est Médée qui va tuer ses enfants, qui va partir, c'est déjà Nyr qui va tuer Hercule, mais elle va se suicider. De la vraie, le mythe écrit par Sophocle, elle se suicide après, de regret. Et là, je disais, mais peut-être qu'elle elle n'a pas ce regret-là, elle est finalement libre après avoir fait ça. Il y a de l'émotion, il y a de la colère, mais il y a aussi revendiquer une nouvelle possibilité, une nouvelle porte de sortie. Et je pense que c'est actuel. Et le fait aussi de travailler avec la mythologie qui est universelle, et même si on n'a pas tous les codes, moi je pense qu'on peut s'identifier parce que c'est ancré dans le présent aussi. Les questions sont ancrées dans le présent.
C'est assez surprenant, évidemment, de découvrir ce spectacle et de voir, et c'est formidable ça, pour ça au théâtre, de se rendre compte de la différence de ressenti. C'est vrai que à la fin du spectacle, on avait une grosse moitié de salle, des femmes essentiellement, assez jeunes, mais pas que. Et puis quelques hommes qui étaient debout, et puis d'autres qui sont restés assis, simplement. Et moi, j'en ai fait partie parce que je me suis quand même posé la question de... Je vais répondre avec un énorme biais, oui. Cynthia, puisque vous comme moi, on va très 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 souvent au théâtre et depuis quelques années, très souvent, on est confronté, et tant mieux, à cette libération de la parole des femmes, à ces questionnements féministes, à ce questionnement sur la place des femmes aujourd'hui au théâtre, mais sur scène, mais aussi avant, ce que la mythologie a créé comme, évidemment, comme cliché, comme image, etc., etc. Sauf que quand on va très souvent au théâtre, j'ai quand même eu, et je suis désolé de le dire comme ça, mais une impression de « so what ?» et de me dire, est-ce qu'on pourrait pas passer à autre chose? Est-ce qu'à un moment, sur base de ce constat, on ne pourrait pas se dire qu'est-ce qu'on fait tous et toutes ensemble pour essayer d'aller un peu plus loin? Et j'ai donc posé cette question à la metteuse en scène.
Mais ça, c'est sûr qu'on n'est pas dans une ère qui rassemble, ça c'est très dangereux. Et on reste chacun isolé avec son combat, or qu'il y a des combats qui doivent se joindre pour devenir plus fort, parce que l'ennemi de l'autre côté est très fort. Voilà, on connaît les problèmes de la gauche, de la droite. La gauche se divise, la droite devient de plus en plus forte. Et je pense que ça, en effet, c'est important. Mais il y a beaucoup de luttes aussi. Et il faut pouvoir parler, se parler, s'écouter. Et ce que j'aime aussi, c'est que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent voir ce spectacle et qui aussi se marrent en émotion, en réflexion. Ils sont contents. Parce que je pense que dans le spectacle même, il y a aussi, quelque part aussi, une invitation pour s'écrire différemment aussi en tant que couple, en tant que partenaire.
Donc finalement, on peut avoir l'impression d'avoir déjà entendu ça ailleurs, mais finalement, ça vaut toujours la peine de remettre l'ouvrage sur le métier.
Évidemment que ça vaut la peine, évidemment que ça vaut la peine, et ça mérite réflexion encore et toujours. J'espère juste que dans les prochains mois, dans les prochaines années, on aura autant de spectacles sur l'après, sur ce que l'on fait de ça, sur ce que l'on fait concrètement. Il y avait dans la salle énormément de classes qui étaient là, des adolescents qui étaient présents, qui avaient peut-être pas tous les codes de la mythologie. C'est pas toujours simple de rentrer hein, dans ce type d'écrit quand on n'a pas les codes. Mais surtout, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui concrètement, et qu'est-ce que ces mômes là qui étaient là en face de nous vont pouvoir se dire tous ensemble ou tous ensemble pour qu'on aille vers un monde un peu plus féministe et un monde un peu plus égalitaire. J'aimerais vraiment, dans les prochains mois ou les années, avoir ce type de spectacle sur scène. Mais ça, c'est juste une réflexion personnelle. Voilà, je l'ai dit, il y avait énormément de gens debout qui ont adoré ce spectacle. C'est vrai qu'il est déjanté, c'est vrai que ça chante dans tous les sens. Il y a un côté très très joyeux aussi, un côté réflexif. Bon, voilà, comme d'habitude, faites-vous votre propre opinion.
Voilà, donc en attendant le passage à l'action, si vous voulez aller découvrir Les Héroïdes, ça se passe donc au Théâtre de Poche à Bruxelles jusqu'au 21 février. Merci Cédric Wattier. Dans la suite, on remonte le fil de notre généalogie à la recherche de nos héroïnes intimes.
La première, Kiosk.
Il y a des secrets qui traversent les générations comme des fantômes silencieux. Par exemple, et au hasard, une arrière-grand-mère patronne de bordel militaire dont on ne sait pas grand-chose, une grand-mère morte à 20 ans dont on sait encore moins, et une mère qui raconterait deux versions différentes de sa propre histoire à ses deux filles. Et au milieu de tout ça, une question vertigineuse, comment on se débrouille avec ce vide, avec ces silences, avec ces versions aléatoires, comment on se construit sur un passé incertain. Dans Comme un poisson sans bicyclette, Virginie Thirion transforme une histoire familiale en enquête théâtrale sensible et politique. C'est un spectacle qui a été créé il y a déjà deux saisons, je pense, et qui nous revient en ce moment pour notre plus grand bonheur au Théâtre des Martyrs à Bruxelles. Virginie Thirion et Caroline Berliner sont nos invités. Bonjour.
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 Et bienvenue. Virginie, vous êtes autrice, metteuse en scène. Vous développez un théâtre où l'intime dialogue souvent avec l'histoire et où la fiction devient outil de réappropriation. C'est particulièrement vrai dans ce spectacle. Caroline, vous êtes comédienne. On vous retrouve au plateau aux côtés de Coraline Clément, Émilie Flamand, Arthur Marbet, Anne Romain, Jean-Gabriel Vidal-Vendroit, Loli Warin. La scénographie est de Clara Dumont. Je préfère citer tout le monde en amont comme
Parfait.
Ça s'est fait. Virginie Thirion, tout part d'un choc avec cette pièce. Le fait de découvrir que votre sœur et vous n'avez pas reçu la même version de votre propre histoire. À quel moment ce vertige et puis ce malaise devient matière à faire du théâtre ?
Ben, y a déjà le choc, ouais. Parce que quand nous découvrons les deux versions, la sœur de fiction vit au Canada, effectivement je suis éloignée de ma sœur, et c'est au chevet de notre mère agonisante que nous nous rendons compte que nous confrontons les deux versions qui nous ont été livrées. Et ma mère est là, entre nous, c'était vraiment le cas, elle était vraiment physiquement là entre nous, mais incapable de nous répondre. Et puis ben, elle est partie, et on est resté avec nos questions. Et moi particulièrement avec la question, pourquoi avoir livré à ma sœur aînée une version édulcorée, la version romantique, rose, où en fait ma grand-mère serait morte d'amour, et m'avoir livré à moi, enfin livré entre guillemets, la version noire, la version sociale, la version où en fait elle aurait été violée ou abusée par la personne chez qui elle avait été placée comme bonne, ou quelqu'un de la maison, et qu'elle se serait en fait, elle aurait été renvoyée dans sa campagne enceinte, et puis après la naissance de ma mère, elle n'a pas tenu le choc et elle se serait pendue alors que ma mère avait 3 ans.
Ouais. Comment on fait quand on se retrouve face à ce récit, enfin en tout cas à cette réalisation qu'on est deux sœurs et qu'on n'a pas du tout la même version de nos antécédents alors qu'on provient de la même famille, de la même lignée, c'est quoi le premier réflexe ? C'est de chercher quelle version est la bonne ou c'est essayer de comprendre pourquoi on n'a pas eu la même histoire ?
Alors les faits que j'ai pu corroborer tendent à penser malheureusement que ce soit ma version qui soit la bonne, mm-hmm. la vraie. Oui. Et je pense aussi que en ayant un peu remis les événements de l'histoire dans l'ordre, je pense que dans la tête de ma mère, il y avait quelque chose qui n'était pas possible quand ma sœur est née et qui, enfin, quand ma sœur a grandi et qu'elle a commencé à poser des questions, mais qui était possible dans le fait d'assumer la noirceur de l'histoire et quelque part d'assumer la honte aussi que ça suscitait et donc d'avoir pu me dire ce qu'il en avait été vraiment. Après, les gens autour ont un peu lâché comme ça, ce qui m'a permis de me rendre compte que oui, c'était cette version-là qui était la vraie. Alors après, il y a comme un effet de sidération. Mmh. Voilà, on reste comme ça devant la question pendant un certain temps. Et puis après, j'ai commencé à écrire dans tous les sens. Et puis après, je me suis rendu compte que je n'allais absolument pas m'en sortir. Et donc, comme dit Loli Warin, j'ai fait appel à l'équipe. Ouais. Et j'ai réuni autour de moi des acteurs, des actrices avec qui j'avais pas forcément beaucoup travaillé. Loli est une complice d'il y a longtemps déjà, mais Caroline, on se connaît depuis très longtemps, mais on n'avait pas encore eu l'occasion. Et j'ai réuni comme ça, c'était au sortir du Covid, et je me suis dit, voilà, je les réunis autour de moi. on prévoit de passer 2 semaines ensemble. Peut-être qu'au bout de 3 jours, on se sera tout dit, mais c'est pas grave, on aura passé un bon moment. Et puis, en fait, l'histoire fait que, à un moment, j'ai lâché un peu le morceau, leur réaction et la façon dont ils sont, j'ai été épatée de leur capacité, leur intelligence de comédien et de comédienne à faire du sens à partir de matériaux apparemment hétéroclites. Et ça, ça nous a donné envie de continuer pour le plus grand bonheur de la Joyeuse Bande.
Mais vous cherchiez quoi, alors, en rassemblant justement ces comédiennes autour de vous, vous cherchiez à trouver des réponses ou à se dire qu'est-ce que je peux faire de cette matière pour qu'elle devienne universelle et qu'elle intéresse finalement ceux et celles qui viendront vous voir?
Les deux, mon capitaine. Mmh. Parce qu'en fait, le fait de porter l'interrogation au centre du groupe, quelque part, rassérène, on se sent plus légitime à poser les interrogations, à dire mais attends, je rêve pas quand je pense ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et puis, encore une fois, je veux dire, chez les acteurs, chez les actrices qui ont du métier, qui ont une capacité de réflexion, ils n'ont pas tout, je veux dire, pas, vous voyez ce que je veux dire,
oui,
quoi. Les personnes qui sont avec moi sur le plateau ont tous fait à un moment un acte de mise en scène ou d'écriture, et ça m'intéresse. Et de me dire, comment est-ce que j'ai peur, moi, d'être rattrapée par mes fantômes, quelque part. C'est ça aussi qu'il m'aide à faire, à distraire les fantômes, pour arriver à se poser sereinement les questions.
Le silence, le mal-dit, la malédiction, finalement, dans les familles, c'est toujours spectaculaire, et pourtant, c'est effroyablement courant. On ne compte plus le nombre d'individus qui découvrent à l'âge adulte qu'il y a des secrets de famille qui n'ont pas été dits, qui ont été mal racontés, ou bien des récits dont on n'a jamais eu le réflexe ou la pensée de les remettre en question, de reposer des questions sur l'histoire première qui nous a été racontée. Et puis on tombe des nues quand on se rend compte qu'en fait, c'était peut-être pas ça. Donc la pièce, on l'a dit, elle est portée de façon chorale au plateau. On va revenir au dispositif dans un instant, mais j'avais une question pour vous, Caroline. Justement, quand Virginie arrive avec ce matériau très personnel et que vous êtes là tous et toutes ensemble, comment on se l'approprie finalement, comment on re-raconte une histoire et à quoi ça vient faire écho chez vous?
Mais je pense que ce que vous dites sur le silence quasi structurel des familles et particulièrement le silence des femmes, pourquoi les femmes ne racontent pas leur histoire. Dans les familles en général, on a toujours les récits du père qui vient raconter des anecdotes, qui remplit les dîners de famille avec de la gouaille, moi en tout cas, j'ai 43 ans, je pense je viens d'une histoire où les mères ont toujours eu tendance à se taire et à ne pas partager qui elles étaient, pourquoi elles avaient fait ces choix-là. Et donc, dans la question que vous avez posée au début, est-ce que la question, c'est de résoudre l'enquête ou de, en fait, porter ce silence? Oui. Je pense que ce spectacle, il est intéressant parce qu'il est à ces deux endroits-là, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est la vérité? On le saura peut-être pas. Les choses sont plus nuancées, plus complexes qu'une histoire rose ou qu'une histoire noire, mais que, par contre, s'interroger collectivement sur pourquoi est-ce qu'on garde des silences autour de nous? Pourquoi les femmes ne transmettent pas à leurs filles ce qu'elles ont été, ce qu'elles ont fait? Ça reste une question qui reste aujourd'hui très résonante et très vibrante et qui continue de nous mettre au travail. En fait.
Vous parlez dans le dispositif justement d'effraction dans le récit, parce qu'il va y avoir des scènes reconstituées à partir de ce squelette de faits que vous avez. Et vous commencez à l'habiller de récit, donc on va avancer par chapitre en repartant de votre arrière-grand-mère Hortense pour aller ensuite chez Suzanne, votre grand-mère, et puis Marie, votre mère, et puis pour revenir au présent. Mais ces scènes reconstituées, imaginées, on en sort fréquemment pour avoir des apartés avec vous, l'autrice, ou avec des moments un peu plus pédagogiques, historiques. En quoi vous y êtes attachée à ce dispositif d'enquête théâtrale? Qu'est-ce que ça permet d'apporter qu'un récit fictionnel complet n'aurait pas permis dans ce cas-ci?
Eh bien, je dirais que quand Cédric, tout à l'heure, a parlé du spectacle et qu'il a dit « and so what », c'est pour répondre ce « and so what ». C'est-à-dire, c'est multiplier les portes d'entrée en se disant que dans la volonté, si jamais il y avait une volonté de ce spectacle qui serait de, libérer une forme de parole, non pas en disant « libérez votre parole », mais en balisant un chemin, quelque part, eh bien, ce serait ça, en fait, de dire « voilà comment on peut faire ». Et puis, on peut prendre les choses comme ça, ben oui, par le biais de fiction, par le biais de reconstitution, par le biais de données historiques, par le biais de billets d'humeur, par le biais de... Voilà. Et de se dire que la richesse et le fait de ne pas tomber dans une... On ne veut pas donner de leçons, on ne veut rien apprendre à personne, mais simplement pour que le partage puisse se faire à plein d'endroits précis.
Ouais.
Caroline. Si je peux ajouter quelque chose bien à sûr. Ça, je pense aussi qu'il y a la volonté d'écrire ce spectacle, enfin qu'on est ici et maintenant au présent du théâtre, et que on n'est pas dans une reconstitution fidèle d'une histoire. En fait, je pense que c'était très important pour l'équipe et pour, enfin pour toi Virginie et pour tout le monde, c'est de dire que c'est à partir d'aujourd'hui qu'on regarde le passé et que donc ces effractions, à la fois par le biais historique ou par le fait d'avoir mis en jeu le personnage de Virginie écrivant et allant à la, faisant son enquête, nous permet, même nous en répétition, à chaque fois de se dire « Attends, mais là on parle des droits de l'avortement, aujourd'hui on est en 2026, qu'est-ce qui s'est passé depuis la création du spectacle en 2024? Est-ce qu'on réactualiserait pas les données à cet endroit-là » Donc nous, ça nous permet d'être toujours en activation par rapport à ce récit-là et de le réinterroger,
oui, de le garder à jour.
De le garder à jour, ouais.
Et si je pouvais encore ajouter quelque chose, c'est que c'est vraiment, il y a une citation de Gloria Steinem qui a écrit Révolution intérieure, oui, que j'aime beaucoup et qui dit « Peut-être partageons-nous les histoires comme les géographes partagent des cartes dans l'espoir de faciliter nos voyages tout en sachant que celui que nous ferons sera unique. » Eh ben, si jamais je devais résumer la volonté du spectacle, ce serait celle-là.
Mais en parlant justement de partager des histoires comme des territoires, il y a néanmoins une histoire de territoire, parce que c'est pas le sujet central finalement, ou en tout cas le sujet premier de la pièce, qui nous parle d'abord de silence et de transmission, mais ça nous parle aussi de l'héritage et de l'héritage traumatique, parce qu'on remonte aussi loin qu'on peut ou que vous avez souhaité le faire dans cette histoire, à la fin du 19e siècle, à cette arrière-grand-mère, Hortense, qui naît et grandit fille de paysans à Mailhe-le-Camp, oui, une zone campagnarde agricole qui va être complètement rasée et expulsée pour devenir un camp d'entraînement pour
énorme,
soldats.
Ouais.
Et on sent que finalement, ce trauma initial de dépossession de terres et de statues, c'est ce qui va conditionner toute la suite de cette lignée. Et sans doute parce que ce ne seront que des femmes qui vont être engendrées, parce qu'on le sent très bien à un moment, on va pas tout dévoiler, mais il y a une histoire de grossesse illégitime et non reconnue, où on sent très bien que si l'enfant à venir avait été un garçon, l'issue de l'histoire aurait été probablement très différente.
Exactement.
À quel moment vous êtes rendu compte que c'était important aussi de parler de ça, de parler justement du statut et de cet héritage inconscient qui traverse les générations?
Alors très vite. En fait, c'est vraiment, on en reparlait avec Caroline en venant ici. Je veux dire, quand on s'intéresse aux faits, dès qu'on les replace dans le contexte historique, on est tout de suite confronté à une plus grande complexité qui fait que, en fait, ça appelle de continuer à se renseigner sur le sujet. Quand je me suis rendu compte, par exemple, qu'en cherchant des ouvrages sur l'histoire de Mailhe-le-Camp, du camp militaire de Mailhe-le-Camp, il n'y avait rien en rapport avec la prostitution. Or, en fait, c'est une donnée fondamentale. Dans chaque ville, j'ai moi-même une petite maison de campagne vers Langres, en France, qui a été une ville de garnison. Sur l'histoire de la ville, rien par rapport à la prostitution. Donc, c'est vraiment ce qu'on a tué. Vraiment, c'est aussi dans le spectacle, la volonté de d'apprivoiser en fait cette histoire, aussi complexe et traumatique soit-elle.
Ouais, justement, comment on écrit l'histoire des gens qui sont pas dans l'histoire, des gens qui étaient à la marge, des paysans, des expulsés, des marginaux, des prostituées, parce que finalement cette histoire, c'est ça, c'est que cette arrière-grand-mère, pour survivre à la sortie de la guerre en se retrouvant veuve, va se rendre compte que le seul commerce possible dans la région, c'est de monter un bordel de campagne, et que pour éloigner sa fille de cette profession quasiment obligatoire, elle décide de l'envoyer en domesticité à 50 km de là. Comment on écrit quand il n'y a pas de traces ?
Eh bien, d'où l'hétérogénéité des matériaux de base. Mm-hmm. Je ne sais pas comment on écrit quand il n'y a pas de traces. Mais je renverrai quand même au livre de Laurent Mauvignier, oui, qui a écrit La Maison Vide, où il y a plein de questions que je retrouve en écho dans sa façon de faire, où celle qui a écrit Mon vrai nom est Elisabeth.
Bien sûr,
Adélion, voilà, qui elle aussi reprend les données. Il y en a un troisième qui est fétiche que j'ai perdu, qui est aussi écrit par une autrice, mais voilà, je trouve que on ne sait pas. Il faut scoltiner la chose. Mmh. Et puis je crois qu'à un moment, il faut une fois qu'on a apprivoisé ces fantômes, il faut les écouter.
Oui.
Parce que je crois que, et puis c'est une façon aussi de remettre du contexte. J'ai dans une autre partie de ma famille des échos de voix paysannes comme ça qui remontent. pas paysanne, c'est même pas ça, mais de gens de la terre, comme on dit. Des choses qui remontent, et on se dit, ah oui, mais alors ça peut prendre une autre signification dans ce contexte historique, politique, ce que ça veut dire. Et voilà, tout ça, c'est d'être à l'écoute. Parce que du coup, je reviens aussi à ce que disait Cédric par rapport tout à l'heure au spectacle, c'est aussi que dans l'histoire qui se raconte, ben oui, les hommes ont leur place.
Oui.
C'est avec eux que ça se raconte. Mmh. Et Dieu sait que c'est fondamental. Je veux dire, bah, Simone de Beauvoir le disait. Je veux dire, elle disait, elle pratiquait un féministe qui disait non, si le féministe c'est juste contre les hommes, on va dans le mur. C'est quelque chose qui doit, une révolution qui doit s'opérer ensemble. Ben voilà, c'est là qu'on est.
L'histoire non écrite des femmes, l'histoire non écrite justement de toutes ces populations qui n'ont pas fait l'histoire parce qu'elles n'avaient pas les instruments du pouvoir ou de l'écriture simplement dans les mains. Aujourd'hui, elles sont en train de refaire surface à plein d'endroits, au théâtre, dans la littérature. On pourrait citer aussi, dans un autre style, Marie-Hélène Lafon et tous ces nombreux romans, mais le dernier qui s'appelle Hors-Champ, où elle parle justement de cette vie agricole et paysanne. Et je voudrais terminer là-dessus. Le titre de votre spectacle, Comme un poisson sans bicyclette, ça renvoie à un slogan féministe des années 70, je pense, qui est une femme sans un homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. En quoi c'est politique de se décider à raconter son histoire de famille, finalement ?
Si, dès qu'on explique, on est vite dans la justification, ce que je trouve extrêmement dangereux. Mais par contre, si je dis que c'est peut-être difficile de réparer, en tout cas, mon grand souci, c'est de préparer.
Oui. Et c'est le bon moment ?
Ah oui, oui, oui. Là, c'est parti, faut rien lâcher.
On lâche rien alors.
Merci
Virginie Thirion, Caroline Berliner. Comme un poisson sans bicyclette, c'est donc à voir au Théâtre des Martyrs ou à revoir d'ailleurs. N'hésitez pas, du 14 au 20 février prochain. Et j'en profite aussi pour rappeler qu'il y aura des soirées de lecture en parallèle de cette série de représentations. Virginie Thirion dans le texte, ça va se passer toujours au Théâtre des Martyrs en collaboration avec le magasin d'écriture théâtrale. Et ce sera les 18, 19 et 20 février. Ne manquez pas ça. Merci beaucoup à toutes les
Merci.
Deux.
Merci.
La première, kiosque.
Et si après tout ça, vous ne savez toujours pas quoi faire le soir, pas de panique, on est là. Cédric Wautier.
Un petit festival qui va bientôt ouvrir ses portes au Théâtre L'Ancre à Charleroi. Meuf Power.
Ah oui.
Tiens. Ben oui, on va donner
bien.
Un peu la parole à ces questionnements autour aujourd'hui de la féminité, du féminisme, de la famille aussi, avec une série de réflexions, de rencontres, d'ateliers, comme par exemple l'atelier Être parent ou pas aujourd'hui, de la chanson, des concerts, du théâtre aussi avec le spectacle Les Insolentes ou par exemple encore Shut Up and Smile. Donc voilà, c'est un melting pot de toute une série de propositions qui nous amène joyeusement, parce que c'est important à L'Ancre et ça fait vraiment partie de l'ADN de ce festival Meuf Power, c'est de se dire on va réfléchir ensemble, on va s'amuser aussi et puis on va essayer d'être un peu moins con ou conne le soir.
Voilà, et puis dans festival il y a festif donc c'est toujours bien.
C'est vrai.
Voilà. Quant à moi, je vous propose du cirque et gratuit en plus, elle est pas belle la vie.
Si.
Vu que la semaine prochaine il y aura à l'ESAC, à l'École supérieure des arts du cirque, à voir How to give in without fucking it up. Donc, comment céder sans tout envoyer en l'air, pour être poli. Qu'est-ce que c'est? C'est un spectacle collectif mis en scène par le fabuleux duo Lotta and Stina. Si vous ne les connaissez pas, allez voir leur travail. Elles sont incroyables. Elles font du rollabola. Et elles mettent en scène les étudiants et étudiantes de première année de l'École supérieure des arts du cirque. C'est donc un spectacle collectif où, en une heure, vous verrez en vrac, et pas forcément de façon exhaustive, de l'acrodance, des sangles aériennes, du trapèze, de la roussière et plein d'autres joyeusetés qui voltigent et qui font vibrer le cœur. C'est joli, c'est drôle, c'est époustouflant et c'est surtout l'occasion d'aller découvrir et encourager des circassiens et circassiennes qui seront sur les scènes en tant que professionnels d'ici 2-3 ans si tout va bien. Ça se passe donc à Anderlecht sur le campus du CERIA, à l'École supérieure des arts du cirque, du 18 au 21 février à 20h chaque soir et c'est gratuit. Pour réserver, vous vous rendez sur le site www.esac.be. Kiosque, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Cet épisode était réalisé par Simon de Beuchère et Perrine Lucas. Retrouvez tous les épisodes de Kiosque sur vos plateformes d'écoute préférées. Pensez bien à vous abonner et à nous laisser des étoiles. Promis, on les redistribue équitablement. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de la culture comme elle prend soin de vous. À bientôt.